Des élèves de terminale du lycée Saint-Pierre vous présentent « Passe ton bac d'abord ».
Revoyez des grands thèmes du monde après 1945.
Bonjour, je suis Théo.
Bonjour, je suis Maureen. Aujourd'hui, nous nous penchons sur l'évolution des rapports entre le monde et un pays en particulier, la Chine. Qu'est-ce qu'on vient d'entendre, Théo ?
C'est la marche des volontaires, l'hymne national chinois depuis 1949. À partir de cette date, la Chine est la République populaire de Chine. Mao Zedong est à sa tête.
Pourquoi ce changement ?
C'est le résultat d'une guerre civile entre les communistes et le gouvernement nationaliste. À cette époque, le monde est en pleine guerre froide. Résultat, la division entre capitalistes et communistes pousse la Chine à se rapprocher de l'URSS. N'est-ce pas, Maureen ?
En 1950, les deux pays communistes signent un traité d'amitié, d'alliance et d'assistance mutuelle. L'URSS peut étendre son influence dans le bloc de l'Est et contrer les États-Unis. La Chine se place sous la protection de son grand frère soviétique et s'inspire du modèle communiste russe. Ils inventent des chants comme l'hymne national que vous venez juste d'entendre.
Mais après la mort de Staline en 1953, la Chine sort petit à petit du giron soviétique. Mao Tse-tung trouve peu d'avantages à avoir l'URSS comme allié. Il veut plus de pouvoir national. Il s'oppose aussi à l'Union soviétique sur le plan idéologique.
Oui, le dirigeant chinois s'oppose au processus lancé pour effacer toute trace de Staline. Autre point, pour lui, l'URSS est faible face aux États-Unis. Comme par exemple lors de la crise de Cuba en 1962. Un conflit entre Moscou et Washington, typique de la guerre froide. La Chine décide, seule, de développer sa puissance. Alors Théo, que met-elle en place ?
À partir de 1958, Mao Tse-tung lance le grand bond en avant. Objectif de ce programme économique, développer l'économie de la République populaire de Chine. Cette politique passe par des méthodes communistes, c'est-à-dire le regroupement des terres agricoles, la modernisation et la nationalisation de l'industrie. Mais l'économie de la Chine ne progresse pas vraiment, c'est même tout le contraire.
Le grand bond en avant est un réel désastre, aussi bien économique qu'humain. L'économie industrielle et agricole s'effondre. La Chine ne reçoit plus d'aide des soviétiques. Le pays plonge dans une grande famine. Des dizaines de millions de personnes meurent de faim. Autre conséquence, la Chine n'a pas sa place dans les relations internationales.
Ensuite, rien ne s'arrange pour la Chine. Elle rentre dans les désastres de la révolution culturelle.
En 1966, Mao Tse-tung, qui veut toujours plus de pouvoir, impose un nouveau modèle de société en Chine. Il envoie les fils et filles d'intellectuels dans des camps de rééducation. Tous ses opposants sont écartés.
Peu à peu, cette politique autoritaire devient une vraie dictature. Et de nombreux documents, comme des chants, servent de propagande pour louer la grandeur et la puissance du dirigeant.
Cette musique s'appelle « L'Est rouge ». C'est un chant communiste partisan à la gloire de Mao Tse-tung. Dans la chanson, le dirigeant devient le soleil le plus rouge de Chine.
1964. Mao Tse-tung publie le Petit Livre Rouge, un concentré de sa pensée. L'armée le soutient et tous les opposants au maoïsme sont arrêtés, humiliés publiquement ou exécutés.
Nous avons rencontré Mali, habitante de Shanghai. La septuagénaire nous a raconté son enfance sous l'ère de Mao Tse-tung. Elle se rappelle le jour où les Hong Weibing, les soldats rouges de Mao, de jeunes étudiants engagés comme miliciens civils, lui ont volé sa bicyclette.
Elle le dit, la vie sous Mao était plus difficile. Travail et pauvreté étaient omniprésents. Mali souligne aussi des aspects positifs. Grâce à la révolution culturelle, elle a voyagé gratuitement dans toute la Chine. Sans ça, elle ne l'aurait jamais fait.
Finalement, le culte de Mao Tse-tung s'estompe. Mais il dirigera la République populaire de Chine jusqu'à sa mort en 1976. Que se passe-t-il après ?
La Chine s'ouvre enfin au reste du monde. Deng Xiaoping, élu président en 1978, affirme réellement la place de son pays sur la scène internationale. La République populaire chinoise est rentrée à l'ONU comme membre permanent en 1971.
Seulement en 1971 ? Tu es sûr ?
Oui, jusqu'à cette date, le gouvernement nationaliste sur l'île de Taïwan était reconnu comme Chine officielle. la Chine de Mao n'est acceptée que par les autres gouvernements communistes.
Quelques années après, les États-Unis reconnaissent enfin la République populaire comme l'unique et légitime gouvernement chinois. Début 79, Deng Xiaoping rend visite aux États-Unis. Ce signe fort annonce une normalisation des relations entre les deux pays et offre aussi une légitimité à la République populaire de Chine. Côté économie, que se passe-t-il à cette période, Théo ?
Eh bien, Deng Xiaoping lance le programme des quatre modernisations. Pour devenir une grande puissance, la Chine doit s'intégrer aux dynamiques économiques mondiales.
Mais qu'est-ce que c'est exactement ces quatre modernisations ?
C'est un plan économique basé sur quatre domaines importants, comme l'agriculture ou les technologies, et quatre zones économiques détaxées.
Ces mesures sont un avantage considérable pour la Chine, dans un contexte où la mondialisation ne cesse de s'étendre. Grâce aux zones défiscalisées, les puissances économiques investissent en Chine, et le PIB chinois augmente de presque 10% par an pendant les années 80.
Deng Xiaoping bâtit la Chine moderne. L'ouverture de la Chine, synonyme d'un certain vent de liberté, n'est qu'illusoire, n'est-ce pas ?
Oui. Même si la Chine est sortie de la dictature communiste, le culte de Mao Tse-tung continue après sa mort. Le Parti communiste est le seul autorisé en Chine. Autre preuve, la répression, toujours utilisée par le gouvernement chinois.
En 1989, une manifestation étudiante tourne au cauchemar. La photo d'un homme en chemise blanche face à une file de chars fait le tour du monde. Ces événements montrent que la Chine ne respecte pas les libertés individuelles ni les droits de l'homme. Mais la Chine se fait quand même une place sur la scène internationale.
Pendant une décennie, la Chine s'affirme comme puissance mondiale, mais reste discrète. Son pouvoir économique grandit et elle intègre l'OMC, l'Organisation mondiale du commerce, en 2001.
Et elle devient même l'une des principales places commerciales mondiales.
Son PIB augmente toujours et dépasse maintenant celui des États-Unis. Et côté politique ?
En 2013, Xi Jinping devient président de la République populaire de Chine. L'ancien fonctionnaire d'État veut retrouver le prestige passé de son pays. Il réaffirme la puissance de la Chine en développant l'armée.
La Chine accueille aussi des événements internationaux, les Jeux Olympiques de 2008 et l'exposition universelle à Shanghai en 2010. C'est aussi une place culturelle d'importance. Il y a beaucoup de musées reconnus, comme celui de Shanghai et ses quelque 10 000 pièces.
Mais la Chine de Xi Jinping est aussi plus dictatoriale. Xi est souvent comparé à Mao. Il y a une réelle filiation entre les deux politiciens.
Qu'est-ce qui le montre ?
L'année dernière, Xi Jinping a modifié la constitution pour pouvoir être président à vie.
Pourtant, selon certains experts, l'augmentation du niveau de vie devait emmener la Chine vers la démocratie.
Mais aujourd'hui, la presse n'est toujours pas libre et les populations sont contrôlées.
Par exemple, avec le projet de crédit social, encore en période d'essai, les citoyens sont notés sur leur comportement civique.
Le président chinois est proche de plusieurs leaders de démocrature, des régimes entre démocratie et dictature. Pendant le sommet du G7, la Chine a accueilli des chefs d'État autoritaires, comme le président russe Vladimir Poutine.
Xi Jinping ne respecte pas les droits de l'homme. Nouvel exemple, la répression contre les Ouïghours, une minorité musulmane basée dans l'ouest de la Chine.
D'un point de vue économique, Xi veut rivaliser avec les États-Unis grâce à un vaste projet, les nouvelles routes de la soie. Sophie Rochefort-Guillouet est professeure à Sciences Po Paris en humanité politique et spécialiste de l'Asie. En quoi consiste le projet des nouvelles routes de la soie ?
Alors, ce projet des nouvelles routes de la soie, il a été initié en deux temps par l'actuel dirigeant chinois à l'occasion de deux discours qu'il a prononcés. Hein, en 2013, là c'était au Kazakhstan qui a fait date, et puis surtout un à Jakarta ensuite, en mars 2015. Et ces deux discours posaient les premiers jalons des deux volets de ce nouveau réseau, c'est-à-dire la route terrestre et la route maritime. C'est-à-dire qu'on reprenait cette vieille idée de la route de la soie pour la faire revivre selon des modalités d'intégration modernes, impulsées par la Chine sous forme de projection de puissance. Et c'est à partir de ce moment-là qu'on a parlé du projet, le OBOR, le nouveau projet One Belt, One Road, c'est-à-dire les nouvelles routes de la soie. À partir du moment où on a traduit ça en anglais, on a eu tendance à garder cet acronyme. En chinois, c'est un peu différent, c'est Yidai Yilu, c'est-à-dire un bassin, une route, ce qui est beaucoup plus sinocentré.
D'accord. Et quel sera du coup l'impact économique de ces nouvelles routes de la soie pour la Chine et pour les pays qu'elle traverse ?
Alors, ça va dépendre un petit peu des pays de cette nouvelle route terrestre ou de l'Asie du Sud-Est, de l'océan Indien. En fait, pour tout ce qui concerne le monde chinois et l'Asie centrale, le bénéfice pour la Chine va être de diversifier ses voies d'approvisionnement en matières premières, mais aussi en matière énergétique, et en développant à travers, par exemple, des prêts aux économies de tous ces pays traversés, une sorte de réseau de nouveaux vassaux, pourrait-on dire, plus des tributaires, comme jadis à l'époque de la première route de la soie, mais avec l'idée que rien n'est gratuit et que ces pays vont bénéficier d'investissements massifs en raison des réserves de change considérables de la Chine et de ce qu'elle a mis en place à travers des organismes bancaires, des prêts colossaux. Mais en retour, eh bien, ils vont se retrouver dans cette orbite du monde chinois. Donc c'est donnant-donnant quelque part, et tous les pays, le Kazakhstan, l'Ouzbékistan, le Tadjikistan, l'Afghanistan, etc., qui vont être concernés, le Pakistan également, vont se retrouver dans l'orbite politique de la Chine, tout autant que dans l'orbite simplement économique et industrielle. Et c'est un petit peu différent si on prend la route qui va être la nouvelle route maritime, qui elle va se développer à partir donc de la façade du monde chinois tournée cette fois-ci vers la mer. C'est une stratégie qui va consister à avoir des ports, presque des comptoirs au sens anglo-saxon du terme au moment de la découverte de la colonisation du monde. Et à travers ces différents postes, elle va là encore sécuriser son approvisionnement, notamment en pétrole, et elle va aussi pouvoir faire parvenir plus vite les marchandises, que ce soit dans ce cas par container, par bateau, ou à travers la route terrestre, beaucoup plus rapidement par le fret ferroviaire.
Et d'un point de vue géopolitique, comment les projets des nouvelles routes de la soie, quelle influence va-t-il avoir ?
Alors là, on est encore dans l'affirmation de puissance. On est dans l'idée de ce qu'on a toujours appelé Xi Jinping, de ce point de vue-là, ne change pas. Hein. C'est cette idée de Zhongguo. C'est-à-dire, le Zhongguo, c'est l'empire du milieu. Ça l'a été, ça va le redevenir. Et la perspective, c'est 2050. C'est-à-dire, à nouveau, en 2050, devenir une puissance globale avec un rayonnement international. Devenir la première puissance, pour l'instant deuxième rang pour le PIB, bon c'est quand même 5 fois celui de l'Inde, mais c'est quand même toujours derrière les États-Unis. Rentrer donc dans ce jeu, redevenir à la fois politiquement, stratégiquement, une puissance bien sûr régionale mais internationale, en diversifiant aussi ses approches, parce qu'il n'y a pas que l'Union européenne et l'Europe centrale et orientale qui est concernée, il y a aussi un intérêt énorme pour l'Afrique en général et le monde africain. C'est peut-être moins connu que les routes qui amènent, dans un sens ou dans un autre, les marchandises vers fournisseurs ou clients vers la Chine. Mais il y a un effort de séduction et aussi d'investissement massif d'infrastructures en Afrique.
Un grand merci à Sophie Rochefort-Guilouet, professeure à Sciences Po Paris en humanité politique et spécialiste de l'Asie. Et merci, chers auditeurs, de nous avoir écoutés.
Pour approfondir ce sujet, nous vous conseillons l'émission « Entendez-vous l'écho » sur la marche de l'Empire chinois et les routes de la soie, diffusée sur France Culture le 11 février dernier.
Bonne journée sur Radio B. C'était « Passe ton bac d'abord »,
des chroniques proposées par des élèves de terminale du lycée Saint-Pierre.
Retrouvez-nous chaque mois sur Radio B et en podcast sur radio-b.fr.